VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Moukoko, candidat à la présidentielle du 20 mars, convoqué à la Direction générale de la surveillance du territoire demain à 10h pour affaire le concernant. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à l'AFP Anatole Limbongo Ndoka, président du comité de soutien de la candidature de l'ex-chef d'état-major de l'armée congolaise, qui a été représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Centrafrique jusqu'au début février, et aussi conseiller du président de l'ONU, Sassou Nguesso, pour les questions de sécurité. Le général Moukoko a annoncé sa candidature à la présidence contre le président Sassou Nguesso peu avant son retour à Brazzaville le 9 février dans des conditions mouvementées. Il dit avoir été caillassé ce jour-là par des policiers à l'aéroport de Brazzaville, ce qui l'a contraint à quitter les lieux en toute hâte. Des accusations démenties par la police congolaise. Depuis quelques jours circule sur Internet une vidéo semblant vouloir mettre en cause le général Moukoko dans une apparente tentative de coup d'État. En RDC voisine, les autorités annoncent aujourd'hui leur intention d'ouvrir une enquête sur les nouvelles accusations de violence sexuelle visant des casques bleus du Congo-Kinshasa de la mission de l'ONU en Centrafrique. J'ai donné injonction à l'auditeur général pour envoyer 3 magistrats militaires pour enquêter sur place en vue de poursuite, a déclaré à l'AFP Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice, en référence au procureur général du parquet militaire. Mardi, un porte-parole de l'ONU avait annoncé que des casques bleus congolais étaient accusés d'avoir agressé sexuellement 4 enfants vivant dans un camp de déplacés en RCA entre 2014 et 2015. Le Burundi et la République démocratique du Congo demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de rappeler à l'ordre le Rwanda, accusé de recruter des réfugiés burundais pour déstabiliser Bujumbura. L'ambassadeur burundais à l'ONU, Albert Shingiro, a réclamé une réunion d'urgence du Conseil afin, dit-il, de prendre des mesures appropriées contre les agissements de Kigali. À Bujumbura, Gelas Ndabirabe, le président du CNDD-FDD parti au pouvoir, accuse le président rwandais Paul Kagame d'être à la base de tous les malheurs du Burundi.
Ceux qui s'accusent ou qui se reconnaissent dans ces malheurs, qui ont endeuillé le Burundi, font tout pour ne pas se mettre à nu et préparent des manipulations mensongères conduisant à la déstabilisation du pays dans le but de ne jamais permettre au peuple burundais d'avoir du temps nécessaire pour se pencher sur l'histoire véritable du Burundi. Pour s'être impliqué dans différents événements de l'histoire du Burundi, Paul Kagame devrait d'ores et déjà penser. Ce n'est pas en cherchant à asphyxier le dialogue inter-burundais pour se précipiter vers des facilités de putsch ou d'imposition d'une transition quelconque que la vérité sera évitée, puisque chaque chose a son début et a sa fin.
Gelas Ndabirabe, président du CNDD-FDD, parti au pouvoir à Bujumbura. Et puis au Tchad, Albert Paimi Padake, le nouveau Premier ministre tchadien, nommé le 13 février, a rendu publique la liste de son gouvernement hier sur les chaînes nationales. Plus de précisions avec notre correspondant N'Djamena André Kodmajinga.
De 28 membres de l'ancien gouvernement, Paimi Padake Albert passe à 38 avec la création d'un nouveau ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État et de la démocratie locale et 8 secrétariats d'État. 2 ministères s'éclatent. Il s'agit du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Éducation nationale. Il y a au total 20 entrants contre 12 départs, parmi lesquels Hassan Sila Bakari de la Communication, Garlena Daudjengar des Finances et Abdraman Mokhtar Mahamat de la Fonction publique. L'on note également 6 femmes dans cette nouvelle équipe contre 5. Un confrère fait son entrée dans ce gouvernement. Il s'agit de Bra Mahamat, alors directeur de la communication à la présidence de la République, qui se voit confier le portefeuille de l'environnement et de la pêche. Les tout-puissants ministres sous débit tels que Moussa Faki Mahamat des Affaires étrangères, Adoum Younousimi des Infrastructures, Ahmad Mahamat Bachir de la Sécurité publique et Daoussa Déby des Postes et de Nouvelles Technologies gardent leur portefeuille. Quelques citoyens dénoncent le nombre pléthorique de ce gouvernement.
On nous fait croire que le pays a un problème financier. Subitement, Le nombre du gouvernement passe de 29 à 38, ça étonne quand même. Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour payer ces gens, et non seulement leur salaire, leurs équipements, leurs installations? Parce que si on nous dit qu'il n'y a pas l'argent et qu'on doit augmenter le nombre de membres du gouvernement pour surcharger le budget tchadien, c'est un dommage. D'abord, la nomination du Premier ministre nous surprend, parce que je viens de lire dans un journal, ce parti s'organise pour aller au Congrès le 20, pour peut-être se présenter aux élections subitement. Par quel miracle il est devenu Premier ministre?
On parle du gel de l'intégration compte tenu de la situation financière du pays. Alors je trouve que c'est une insulte à l'endroit de la population tchadienne pour ne pas répondre à toutes ces revendications.
Nous avons pensé que nos gouvernants doivent prendre des mesures salvatrices en supprimant certains postes ministériels et redresser le régime financier. Mais nous déplorons que le gouvernement soit insensé à cette situation de crise.
Trois députés à l'Assemblée nationale se retrouvent dans ce gouvernement dit de combat, y compris le Premier ministre lui-même, André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Niger, le temps monte à 3 jours seulement de la présidentielle. La société civile dit non à la décision prise hier par la Commission électorale nationale d'autoriser le vote par témoignage. Le point avec Nicolas Pinault, envoyé spécial de VOA Afrique à Niamey.
Oui, la société civile nigérienne a dénoncé, je cite, une décision illégale et inacceptable de la part de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, la CENI qui a autorisé hier le vote par témoignage, une mesure qui concerne plus d'un million d'électeurs sur les 7,5 millions que compte le pays. Réunis au sein du collectif Résistance Citoyenne, ces ONG appellent à la mobilisation, notamment par la voix de Moussa Tchangari, le secrétaire général de l'OLG Alternative Citoyenne. Une mobilisation en deux temps. Tout d'abord, lors du scrutin de dimanche, dans les bureaux de vote, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éventuelle fraude. Et peut-être, après le vote, s'il y a contestation électorale avec des manifestations. Vous le voyez, le débat n'est pas clos sur ce vote par témoignage qui divise profondément au Niger. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Au Sénégal, des réactions à la décision du président Macky Sall de renoncer à réduire son mandat de 7 à 5 ans. Le mouvement Y en a marre, qui avait activement milité pour le départ du président Abdoulaye Wade, est très remonté contre le président Macky Sall. On écoute Malal Tala alias Faux Malade du mouvement Y en a marre à Dakar.
Macky Sall a violé la parole d'honneur. Quand le président de la République, gardien des institutions, quand il dit une chose, ça engage aussi tous les Sénégalais, parce que c'est le président de tous les Sénégalais. C'est en même temps un manque de respect à l'endroit de tous ces Sénégalais, de tous ces jeunes qui ont voulu voir partir Wade et élire Macky Sall. Nous combattrons Macky Sall jusqu'au bout. Quand il battra campagne, à côté on battra campagne pour dire aux Sénégalais, allez voter massivement non. Et quand vous voterez massivement non, le président sera désavoué et ça permettra aux politiciens, aux politiques en général, de comprendre que le peuple reste encore debout.
Malal Tala, alias Faux Malade, du mouvement Y en a marre à Dakar. En Guinée-Bissau, le représentant spécial du président de la Commission de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, Ousmane Cissé, a démenti aujourd'hui les informations au sujet d'un prétendu retrait des forces d'alerte pour le maintien de la paix en Guinée-Bissau, l'ECOMIB. Des détails avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
Selon un communiqué signé par son représentant spécial Ousmane Cissé dans le pays, la CDAO a rappelé à la population bissau-guinéenne que le mandat de sa mission militaire dans le pays a été prolongé jusqu'en juin de cette année. À propos des rapatriements de certains matériaux des forces d'attente des ECOMIB en cours depuis le port de Bissau, la CDAO a souligné que la même chose se produit en raison de l'impossibilité de son transport aérien en décembre dernier au moment du remplacement des forces nigérianes. La CDAO a ajouté que les forces de police du Nigeria dans le cadre de l'ECOMIB vont rester en Guinée-Bissau pendant 20 mois en plus de la date du délai de la fin de sa mission. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Et pour terminer, en Ouganda, les électeurs votent aujourd'hui pour élire leurs députés et leur prochain président. Le chef de l'État sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, est en favori face à une opposition divisée. Des retards ont été signalés dans plusieurs bureaux de vote à Kampala et la police a fait usage de gaz lacrymogène dans la capitale pour disperser les électeurs mécontents des problèmes d'organisation du scrutin. L'électorat doit choisir de se rallier 10 députés et décider s'il maintient ou non sa confiance à Yoweri Museveni en quête d'un cinquième quinquennat face à 7 autres candidats. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.